retrouve donc dans Planète Marché avec trois invités chaque soir pour décrypter les actualités politiques, économiques, financières. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Frédéric Rosier. Bonsoir Frédéric Rosier.
Bonsoir.
Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. À vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Sébastien Lalevé. Bonsoir Sébastien Lalevé.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de Montpensier Arbevel et on a le plaisir d'accueillir également Alain Dubrulle. Bonsoir Alain Dubrulle.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la gestion chez Claresco. On a le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau studio et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue sur les marchés financiers. On va peut-être commencer avec vous, Frédéric Rosier. Moi, ce que j'aime bien quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est qu'on a l'impression que si on s'était endormi pendant deux mois et qu'on regardait simplement les marchés actions, il ne s'est pas passé grand-chose. Et si on, en tout cas, en termes de niveau, pardon, indices, et si on s'était endormi juste sur la semaine précédente et qu'on était resté sur les droits de douane, où est-ce qu'ils en étaient, on a l'impression qu'aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose non plus, à savoir qu'ils ont été annulés par le tribunal du commerce international le vendredi et remis dès le samedi par la cour d'appel. Alors après, ça va évidemment suivre son cours. On va revenir sur tout ça. Question assez large pour commencer. Comment est-ce que vous avez ressenti, vécu le rebond sur le mois de mai et la tendance des marchés actions au global sur le mois de mai, Frédéric Rosier?
Alors, plutôt bien, honnêtement, puisqu'on avait le sentiment que le marché avait quasiment pricé le pire avec les droits de douane. On ne parle même pas des droits de douane supérieurs à 100% qui ne veulent plus rien dire, puisque bien sûr, le commerce s'arrête du jour au lendemain si on applique ces droits de douane. Et le marché est rentré dans une configuration où, finalement, on allait peut-être avoir des formes de détente. Alors, il y a plusieurs pays qui ont commencé à négocier directement avec les États-Unis. On a eu l'Angleterre, on a le Japon, on a d'autres pays qui ont comme ça, qui ont donné un peu la marche à suivre. Et les marchés se sont mis dans une vision un peu moins négative. Je dirais pas positive, mais un peu moins négative.
Un peu plus résiliente.
Un peu plus résiliente et la force d'habitude. C'est-à-dire qu'au départ, à chaque, finalement, tweet de Trump ou communication de Trump, le marché baisse ou varie de moitié moins de ce qu'il a fait au précédemment. Et force est de constater que depuis maintenant une semaine, c'est très peu de variations pour des informations qui potentiellement peuvent être quand même extrêmement délicates, que ce soit sur l'acier, sur les droits de douane dans la Chine. Ouais. Mais on s'habitue finalement à ce wording voulu par Trump et il y a la forme de la résilience du marché qui se dit, bah, de toute façon, on sait qu'on finira l'année avec peut-être des droits de douane qui seront 5, 6, 7 fois supérieurs à ceux qu'on avait en début d'année. Et c'est un peu le nouveau paradigme qu'on est en train de vivre sur les marchés.
Sébastien Lalevé, même question. Alors, il y a une blague, hein, effectivement, sur les marchés financiers. On parle de taco trade. Ou alors, est-ce qu'on peut parler plutôt de résilience, de dire, bah, effectivement, on attend d'avoir les faits plutôt que d'écouter le bruit, on continue? Comment est-ce que vous avez vécu, vous, ce mois de mai et cette impassibilité qui pointe sur les marchés vis-à-vis de ces nouvelles, alors que le 2 avril, effectivement, c'était un moment particulièrement compliqué pour les marchés?
Il y a plusieurs points. Le premier, c'est qu'en réalité, le marché est en hausse, mais 70% de la hausse, c'est les financières et les industriels, dont la défense. Donc en réalité, toujours pareil avec les indices, hein, c'est quand il y a des sociétés qui ont extrêmement bien performé, notamment les financières, hein, qui continuent de surprendre à la hausse et avec des cours de bourse qui partaient de très bas et qui sont aujourd'hui avec des valeurs encore raisonnables en fait. Mais il y a des pans entiers de l'industrie et des secteurs qui ne fonctionnent pas. Donc on peut dire que c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que cette hausse du marché, en fait, elle, comme en réalité le marché il marche sur deux cylindres, il y en a d'autres qui sont encore là potentiellement pour continuer à entretenir la hausse si besoin était en Europe.
D'accord. Non,
pas uniquement des actions européennes. Après, il y a un autre élément qui, là, est beaucoup moins rose, c'est que la réalité économique de tout ce bruit financier, on ne l'a pas vu encore.
Okay.
Le marché est toujours en anticipation.
Bien sûr.
Et c'est vrai que en ce moment, avec Trump, de toute façon, comme c'est tout et l'inverse dans la même journée, ou en tout cas dans la même semaine, donc on est un peu dans une espèce de tourbillon permanent. Mais quand on parle aux sociétés et aux entreprises, c'est pas là. Et quand le patron de Walmart explique que la hausse des prix, elle arrive. Ça n'a pas fait mal encore pour l'instant. C'est juste, on est dans le conceptuel.
On le voit pas dans les chiffres. On le voit peut-être dans quelques indicateurs, effectivement, de sentiment.
De sentiment. Les indicateurs de sentiment sont pas bons. Quand vous prenez les transcripts du premier trimestre, parce que les premiers trimestres ont été meilleurs que prévu, ce qui a un peu orienté un peu le rebond. Hein. Mais sauf quand vous regardez le sentiment, il est mauvais. Parce qu'il y a l'incertitude, et quand vous parlez avec les entreprises lors des rencontres que l'on fait régulièrement, ils vous disent qu'ils n'y voient rien. Et globalement, quand une entreprise voit rien, c'est jamais très bon pour l'investissement, pour le capex, pour se projeter. Et puis l'inflation. L'inflation aux États-Unis va être catastrophique. Et on va rentrer bientôt dans le schéma à nouveau de inflation, fin de la baisse des taux, quid des taux d'intérêt aux États-Unis, quid du marché obligataire. Donc en réalité, le problème qu'on a avec Trump, c'est qu'il sape un peu le moral des uns et des autres. En réalité, il met une espèce de petite musique anti-business. En réalité, parce que tout ce qu'il fait est anti-business, fondamentalement. On va expliquer que tout doit être réindustrialisé aux États-Unis, c'est juste de la connerie à l'état pur, hein, tout le monde le sait. Et que les industriels. Enfin, le problème, c'est que la réalité économique n'est pas la réalité de Trump, il faisait de l'immobilier. Tu trouves un spot et après tu construis un truc, tu t'endettes et tu le vends, quoi.
Ce que vous dites, c'est que c'est quoi? Il fait la même méthode sur les marchés financiers?
Bah, ça non, pas ce que je dis, c'est qu'un Boeing, c'est 3 millions de pièces. Donc, pour tout réindustrialiser aux États-Unis, une voiture, c'est des centaines de milliers de pièces, ou des milliers de pièces, j'en sais rien. Mais qui sont. Aujourd'hui, il y a toute une chaîne industrielle qui est en place depuis des années, qui était ouverte. Et que les industriels, que ce soit dans l'industrie lourde, dans l'industrie classique, que ce soit même dans le textile, il y a des schémas qui existent depuis. Et tu ne le changes pas du jour au lendemain. Quand il dit que les puces doivent être faites aux États-Unis, patron de TSMC, je voulais expliquer que c'est bien, mais ça se fait pas l'année prochaine. Donc tout ça, à mon avis, il y a beaucoup de bruit. Les marchés financiers anticipent les bruits. Les algos, la gestion passive surjouent ça. Mais qu'à la fin, c'est la réalité économique qui est importante. Et pour l'instant, on ne l'a pas vu.
Alain Dubrulle, peut-être rapidement sur le comportement des marchés avant d'aller sur le scénario économique aux États-Unis, puisque c'est ce qui nous intéresse en grande partie aujourd'hui. Mais alors sur le comportement des marchés sur le mois précédent.
Pour compléter ce qui a été dit, je dirais qu'il y a eu surtout depuis avril, en fait, du soulagement. C'est-à-dire que Trump, au début, enfin, tout le monde pensait qu'il bluffait. Et puis les annonces, notamment de début avril, ont un peu stressé tout le monde, évidemment. Donc d'ailleurs, au passage, pour ceux qui ont loupé l'annonce du plan de relance allemand, début avril, on retrouvait les valeurs allemandes avant le plan de relance. Donc, c'était un peu l'occasion de rentrer. Enfin, on a essayé de le faire un petit peu, pas assez, mais passons. Mais cela dit, donc, on a vu qu'au bout de 7 jours, il a capitulé là-dessus. Ensuite, les menaces avec la Chine, où ça a l'air de durer, un mois plus tard, donc début mai, rebelote. Et puis même là, les menaces sur l'Europe à 50%, finalement, 3 jours après, c'est reporté. Donc on a quand même l'impression que même s'il y a des gros effets d'annonce, des grands coups de trompette, il y a des reculades permanentes. Et on note aussi que, et ça c'est un point d'inquiétude en même temps, c'est que dès que le 10 ans US dépasse les 4,50 et que le 30 ans US dépasse les 5, là, le promoteur immobilier, il se souvient que les taux, ça coûte. Et là, tout d'un coup, tout de suite, ça va mieux. Enfin, il y a une sorte de retour à la réalité. Donc, je dirais, pour l'instant, les marchés ont plutôt joué le soulagement en disant, en fait, il fait beaucoup de bruit, mais en fait, il fait pas grand-chose. Maintenant, là où je rejoins Sébastien, c'est que le problème, c'est qu'en effet, tout ça crée de l'attentisme. Le problème, il y a quand même 3 ou 4 semaines, il n'y a pas eu de containers qui sont partis de Chine vers les États-Unis. Dans la grande distribution, les hausses de prix violentes ou tout simplement d'ailleurs des rayons vides, ça va être maintenant, dans les prochaines semaines. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce soulagement a été d'autant plus, enfin plutôt bien accueilli par les marchés, qu'au niveau de la Macron, on voit presque rien. Les chiffres publiés pour l'instant, alors bien sûr, tout le monde est inquiet, on ne sait pas où on va, mais les hard
même
data.
Même dans les résultats d'entreprise, on n'a pas encore vu.
Oui, mais ça, c'est normal. C'est normal. Mais l'hard data macroéconomique qui sort, le CPI, il n'a pas vraiment explosé, l'activité, elle reste à peu près là. Je dirais qu'il y a un effet de latence, en fait. Et donc, maintenant que les marchés ont quand même bien rebondi, enfin, en Europe, mais aussi aux États-Unis, on craint un petit peu l'étape suivante où la macro va commencer à se détériorer, où les boîtes vont commencer, pas partout, mais dans certains secteurs, ça va commencer à warner. Et là, prudence.
Sur le sujet de la décision du tribunal de commerce international, parce qu'on reste dans la macro pour le coup, on pourrait voir ça effectivement comme un désaveu de plus pour Donald Trump et surtout pour ses partenaires commerciaux comme un message qui est de dire ça sert à rien de trop négocier puisqu'ils vont se mettre des bâtons dans les roues eux-mêmes aux États-Unis. Vous, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est la macro c'est bien, mais là en fait il faut se concentrer sur la micro pour comprendre réellement les incidences de ce qui se joue depuis 2 mois.
C'est que pour l'instant on n'a pas encore vu en macro d'une part, disons que il a eu un effet négatif, non pas parce qu'on a payé des taxes, etc., mais parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont reportés, les consommateurs, mais surtout encore plus les entreprises qui investissent.
Bien sûr,
aujourd'hui, elles ne recrutent plus, même aux États-Unis, on sent qu'il y a les sociétés, aujourd'hui, hésitent à recruter. Le marché du travail s'est tendu en Europe, mais c'est également le cas aux États-Unis. En tout cas, moi, c'est les échos que j'ai dans les, chez les jeunes diplômés, même de très bonnes universités. Tout le monde est prudent, c'est normal, on ne sait pas trop où on va. En plus, en post-Covid, que ce soit en stock physique, mais même en employés tout simplement, les boîtes qui avaient trop viré pendant le Covid se sont rendues compte qu'en fait, c'est dur d'avoir les employés et qu'il ne fallait pas les sabrer, il fallait les garder. Donc aujourd'hui, on a des sociétés qui ont une activité qui est probablement un peu réduite ou qui ont peur que ça ralentisse, on les comprend. Elles n'ont pas forcément envie de faire des grands plans sociaux parce qu'on n'en est pas encore là et s'espère que ce soit temporaire, mais en attendant, elles freinent le recrutement. C'est totalement logique. Donc tout ça, cet effet d'attentisme, il va peut-être se matérialiser en micro, en macro, dans les publications de résultats, et c'est ennuyeux. Effectivement, enfin, c'est là qu'il va falloir être prudent et un peu sélectif.
Frédéric Rosier, il va falloir effectivement regarder l'impact entreprise par entreprise, société par société.
Je préfère être ma place qu'effectivement économiste aujourd'hui parce que pour avoir une vision claire de ce qui va se passer, stagflation, stagnation, récession, même les chiffres, par exemple, vous parliez tout à l'heure des containers, mais il y a eu un emballement hallucinant même en mai, c'est-à-dire que les prix des containers du 40 foot, ça a pris 15, même 35% sur des routes Shanghai-New York ou Shanghai-Los Angeles, parce que tout le monde s'est engouffré dans la fenêtre de tir qui a été donnée par Trump pour justement inonder le marché américain. On se rappelle aussi.
Donc les entreprises ont fait des stocks en fait, et donc
ça va être compliqué à gérer parce qu'on va avoir effectivement des effets de stockage. Ça va s'arrêter du jour au lendemain, donc on va certainement avoir, et on l'a vu aussi avec les droits de douane hallucinants que les États-Unis ont perçus pendant cette période, et alors qu'on nous annonce juste après au mois de juin un gros trou d'air, notamment sur l'activité du shipping. Donc ça va être extrêmement compliqué d'avoir une vision claire des États-Unis, de l'inflation va aller à 3 ou 4% à terme, je veux dire, c'est pas un sujet. Et d'avoir cette vision claire de où on va aujourd'hui sur la politique de Trump, sur les déficits de Trump, en plus avec des discussions qu'on va avoir sur la dette, ça va arriver demain, c'est-à-dire qu'on va avoir, à mon avis, des questionnements aussi, vous savez, sur ces problématiques de refinancement quotidien qui va arriver, à mon avis, au courant d'été.
Il y a eu quelques alertes déjà.
Donc tout ça, cette friction là-dessus, ça va arriver très très vite et on va avoir, à mon avis, peut-être pas maintenant, on a encore un peu de temps, en août, je pense que le mois d'août, ne partez pas en vacances.
D'accord.
Moi, okay. Je vous dis clairement, sur les marchés, demandez à votre gestionnaire d'être au moins pas très loin de son téléphone parce que je pense que le mois d'août va être extrêmement compliqué.
Potentiel désenchantement à ce moment-là.
Ouais,
potentiellement au mois d'août.
Ouais. C'est que la macro aujourd'hui est illisible en fait. Même le nouveau truc maintenant dans les boîtes, c'est de faire des entrepôts sous douane. C'est-à-dire que la marchandise arrive au plus près des clients, mais elle reste dans un entrepôt qui n'est pas encore dédouané.
D'accord.
Il y a toujours eu ça pour les œuvres d'art, enfin pour l'ensemble de produits, etc. Mais là, c'est un truc à la mode parce que vous stockez et le jour où on dit il n'y a plus de douane,
là c'est bon.
Allez, on passe la frontière. Et puis après, on attend.
Et puis comme on sait que ça peut changer du jour au lendemain.
Mais du coup, pour les stats macro, c'est infernal.
Mais juste un exemple, vous faites du prêt-à-porter. La collection de Tony printemps-été, elle est dans les magasins depuis plusieurs mois.
Oui.
Mais là, on est en pleine réflexion sur l'automne-hiver.
Oui, bien sûr.
Et là, vous faites comment pour négocier les prix, pour savoir quels sont les volumes. Vous faites fabriquer, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les Ralph Lauren et toutes les marques très présentes aux États-Unis, c'est aussi fabriqué au Vietnam, en Chine et dans tous ces pays qui ont été imposés, effectivement, sont taxés à
20%. Une collection se construit sur un prix cible, sur une gamme de prix, et ensuite on adapte
Là, ce que vous décrivez, ce n'est pas uniquement pour les entreprises américaines, ça vaut aussi pour une entreprise européenne.
En fait, c'est ça qui est le paradoxe, c'est que les entreprises américaines ont un marché intérieur énorme, mais elles ont à peu près la même chaîne de production que les sociétés européennes, sauf que leur part de marché aux États-Unis est très supérieure, donc leur part de chiffre d'affaires est bien supérieure. Les boîtes américaines sont là pour la plupart en réalité beaucoup plus américaines que le reste, donc elles ont la même chaîne de production, donc en réalité elles ont les mêmes problèmes de prix et de droits de douane, donc en réalité les plus touchées.
C'est le consommateur américain qui est taxé à la fin.
Et à la fin,
si vous voulez faire des baskets aux États-Unis 100%, très bien, mais ça coûtera 300-400 $ la paire.
C'est déjà le cas, donc.
Non,
mais alors, un mot,
les paires de bases sont plutôt à 150.
Un mot peut-être quand même. Je lisais effectivement une étude de Morgan Stanley qui disait que la banque s'attendait à une baisse du dollar de 10% supplémentaire par rapport
Il y a un vrai truc, en fait, ce qu'on n'a tous pas compris, c'est qu'en fait, Trump, c'est un vrai écolo, en fait. contrairement à ça.
Il n'aime pas les
éoliennes qui tuent les oiseaux, comme il dit, hein, ce qui est un vrai problème. Mais c'est un vrai, pour moi, c'est un adepte de la décroissance.
Ou du parce que circuit court.
Ce qu'il organise, c'est du circuit court et de la décroissance, parce que sa politique va organiser de la décroissance.
Moins de trade mondiaux, notamment
pour les sociétés américaines et pour le consommateur américain. Je ne suis pas complètement persuadé qu'ils aient compris ça. Enfin, en tout cas, que ceux qui ont voté pour lui, c'est ce qu'ils voulaient. Donc, ils vont le voir. Donc, il y a les midterms bientôt. Donc, ils jugeront.
La baisse du dollar de 10% depuis son plus haut du 13 janvier, une anticipation potentiellement de 10% supplémentaire selon Morgan Stanley, c'est peut-être pas vos scénarios à vous d'ici la fin de l'année, ça peut venir contrebalancer ou au contraire ça va dans la dynamique que vous décrivez ?
D'une certaine façon, on pourrait dire que, enfin, on sait pas où vont atterrir les droits de douane, mais s'ils atterrissent à une sorte de 10% généralisé et plus si affinité, ben finalement, on dirait que le dollar s'est ajusté à peu près de ça, quelque part. Donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a quand même vu plusieurs fois depuis le mois de mars des séances où les taux d'intérêt américains montent et où le dollar baisse. D'habitude, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire quand les taux d'intérêt montent aux US, on est mieux rémunéré, donc ça fait monter le dollar. Or là, c'est précisément quand les taux se tendent que le dollar baisse. On sait qu'il y a un mouvement de gens qui ne veulent plus acheter de la dette US. Alors, est-ce que c'est la Chine qui fait exprès pour embêter les Américains ou est-ce que c'est une défiance plus générale ? Peut-être un peu des deux. Mais en tout cas, c'est ça le vrai signal, en fait. Et d'ailleurs, on voit que Trump, les marchés actions ne le préoccupent pas tant que ça, mais les marchés de dette, il y a un moment où 4,50 sur le 10 ans, 5 sur le 30 ans, c'est vraiment des moments où, là, on est au bord du précipice et ils sont obligés de faire attention.
Et alors, je confesse mon incompréhension, mais 4,5%, 5% sur du 30 ans, on n'est pas sur des taux stratosphériques non plus. Pourquoi est-ce que ça inquiète autant les marchés aujourd'hui ?
Parce que, en fait, il y a la question de la dette soutenable. Donc, aux États-Unis, il faut bien rappeler que, bon, en France, on ne va pas se tresser des lauriers, hein, mais on est à 5,5-6. Aujourd'hui, le déficit américain, il est plutôt à 6,5-7. En tendance, on a un stock de dette qui est à 120% du PIB, donc c'est quand même très mauvais. Maintenant, on peut se consoler en disant que les États-Unis, c'est les Américains, donc ils ont beaucoup plus de croissance que nous. Donc si on dit qu'ils peuvent faire 2,5% de croissance et qu'on rajoute une inflation structurelle, alors peut-être plus élevée qu'avant, mais qui est entre 2 et 3, donc ça fait un nominal, un PIB nominal qui croît de 5,6. Donc si vous avez 5,6 de dette en plus avec 5,6, quelque part, votre dette sur PIB, quelque part, elle se stabilise.
Bien sûr.
Maintenant, si vous avez des taux d'intérêt qui montent à 5, 6, 7, là, c'est une spirale. C'est-à-dire que le coût de la dette va augmenter de manière exponentielle, donc va rendre le service de la dette plus compliqué, donc va augmenter le coût de la dette. Et enfin, à l'extrême, c'est comme ça qu'on termine par une restructuration de dette.
Et on voit.
On te dit, je te dois 100, mais ma dette cote à 80 du 100, donc je te transforme ça et je fais un haircut de 20. La dernière fois en France, c'était en 1797, c'est la loi des deux tiers. L'État français ne pouvait pas soutenir sa dette. On dit, bah, je te dois 100, mais ça va pas le faire. Donc je te dois plus que 65, mais je te mets à ton intérêt raisonnable et tu seras payé.
Et on voit qu'aujourd'hui, on a un sujet sur la demande en dette US.
Ben, indirectement, c'est vers quoi ça nous amène. C'est-à-dire que quelque part, avant, quand les choses allaient mal dans le monde, c'était la dette américaine qui était le last recourse.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, ça reste quand même un grand marché liquide. Ça reste une. Puis on peut aussi argumenter que aux États-Unis, les gens sont beaucoup moins taxés que chez nous. Donc s'il faut rembourser la dette, il y a un moment, ben, on peut taxer les. Soit on taxe les consommateurs. Il y a plus de potentiel aux US que chez nous. Nous, on est au taquet. Soit. Bah, on screw the bondholders, hein. On dit aux gens qui ont des obligations, bah, c'est bon, on vous rembourse moins. Et puis, n'oublions pas non plus, ça se rappelle à Chypre, hein, on peut aussi taxer les dépôts bancaires.
Oui, bien sûr.
On dit tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, bon, alors ça, c'est bank run. On n'en est pas là non plus, mais c'est toujours des choses à garder en tête pour des paniques potentielles.
Sébastien l'a levé, ensuite
Frédéric Rosier. Sur les droits de douane, il y avait un sujet aussi, c'est qu'il voulait absolument, en réalité, c'était de la politique interne, où il voulait absolument passer sa loi sur les baisses d'impôts.
Oui, bien sûr.
Et que les républicains, même s'ils sont tous trumpistes ou presque, ils ont quand même ce biais où ils n'aiment pas le déficit et la dette plus que ça, traditionnellement. Donc ils étaient un peu échaudés par un nouveau plan de baisse d'impôts non financé. Et donc il y avait ce double projet qui est compliqué, qui était à la fois le Doge. Donc les économies budgétaires massives d'Elon Musk qui on en pense qu'on en veut, mais en tout cas l'impact final, le résultat sur cette année ne sera pas ce qui était attendu.
Bien sûr.
Et les droits de douane, qui est un moyen de dire à ses électeurs, à ces congrès.
Bien sûr, aux élus, donc, aux élus américains.
Élus, oui. Vous inquiétez pas, on va compenser par les droits de douane.
Parce que les droits de douane auraient financé ce que
C'est des bêtises, ça marche jamais. Mais en tout cas, c'était une façon de leur dire.
C'était l'habillage.
Vous inquiétez pas, c'est financé. Et ce qui a permis de que ça passe, en tout cas au début que ça passe. Mais en réalité, ce que le marché a vu, c'est quand tu additionnes tout, c'est qu'en réalité, le déficit attendu fin 2025 sera supérieur aujourd'hui à ce qu'il était estimé il y a quelques mois. Donc,
on parle de 4800 milliards de dollars de déficit supplémentaire avec Big Beautiful Bill.
Sur plusieurs années,
ouais. Sur plusieurs années. Donc, et là, on se rend compte que c'est le consommateur américain qui l'a payé.
Si on s'amuse à faire les maths, mettez 1% de plus de la différence entre 5 et 6% sur 4800 milliards. Ça fait 48 milliards, 1%. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais.
Donc, c'est comme en France, on doit refinancer à peu près 300 milliards de dettes par an. De passer des taux à zéro, comme on a eu il y a quelques années, à 3,40, ben sur 300 milliards, ça fait 10-12 milliards tout de suite.
Sur 5 ans, ça fait 50 milliards.
Et ça devient tout de suite le budget de l'éducation, pas de l'éducation nationale, mais de la justice, machin, du truc.
Alors si on ajoute à ça le fait que justement, on va peut-être voir dans les prochaines semaines ou mois des chiffres macro un peu moins sympathiques. Donc là, on révise le PIB à la baisse.
Oui,
donc ça veut dire aussi moins de croissance, moins de recettes fiscales, fatalement.
Une potentielle récession aux États-Unis en 2025.
Alors, pour l'instant, non, moi je dirais. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu ce que le marché était. Le soulagement depuis avril, c'est qu'on est plus sur un ralentissement que sur une récession. Il se tire beaucoup dans le pied, mais quand même, il y a une certaine résistance de l'économie américaine. Et puis rappelons quand même que le PIB aux États-Unis, 90% est domestique. L'import-export, c'est que 10%. Le problème, c'est que c'est pas ce montant-là, mais là, il est en train de casser des chaînes d'approvisionnement. Donc, si l'acier franchit plus la frontière pour les éoliennes, dans l'auto, alors il y a eu pas mal d'exceptions en même temps. Mais dans l'automobile, par exemple, du côté de Détroit, avec le Canada, c'est une chaîne d'approvisionnement qui est complètement intégrée, donc on peut pas la casser.
Frédéric Rosier, sur votre scénario économique aux États-Unis. Moi, il y a une question que je me pose, alors qui est plus marché, mais est-ce qu'il faut une stabilisation des marchés obligataires pour que les marchés actions aient du souffle pour la deuxième partie d'année ?
De toute façon, on l'a dit. C'est bien simple, il y a des chiffres qui sont... c'est pas anecdotique, on voit bien que le 4,50 est travaillé. Je veux dire, on tourne autour, on le franchit, on se rappelle à lui, il y a des forces de rappel, mais c'est comme le dollar. Le dollar, en vérité, le dollar n'est pas bon marché, il n'est pas cher, il a son prix. C'est-à-dire que...
Le pouvoir d'achat,
pouvoir d'achat, c'est un 13, et vous demandez à n'importe qui, je donne toujours cette référence, combien valait en francs le dollar. Tout le monde dans sa salle dit ça valait 5 francs. Alors ouais. Que là, moi, je l'ai connu à 10, il valait 4, mais tout le monde vient dire 5 francs. Pourquoi ? Parce que c'est la parité du pouvoir d'achat et c'est son centre gravitationnel.
D'accord.
Le dollar, économiquement, modulo, derrière la croissance et autres, ça vaut 1,13. D'accord ? Et c'est pas pour rien que vous travaillez autour des 1,13 en ce moment. C'est normal. C'est-à-dire que si vous franchissez ça, durablement, vous avez un cycle même baissier dollar, ce qui est contre-intuitif parce qu'on parlait des taux d'intérêt. Et il faut aussi penser sur les anticipations. D'ailleurs, 2026, peut-être baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. C'est pas logique dans un esprit de carry trade. C'est-à-dire que la rémunération du dollar, aujourd'hui, le différentiel avec ce qu'on anticipe, notamment avec la BCE de baisse de taux, ne peut pas justifier une baisse du dollar. D'accord? Ce qui se passe, c'est peut-être plus important. C'est qu'il y a, vous savez que les investisseurs, les institutionnels se sont gavés de positionnement dollar, actions, bons du trésor, et que jamais les grands allocataires n'ont jamais eu autant de dollars en position. Et finalement, on est en train d'avoir une phase de normalisation. C'est-à-dire que tout le monde, je pense qu'on l'a tous fait autour de cette table, on a baissé naturellement notre exposition dollar.
On vend du dollar.
Un peu moins d'actions dollar, un peu moins de bons du trésor, d'obligations dollar. Et donc, le fait qu'on revienne à une pondération peut-être plus logique, ça crée des flux. Et donc, ces flux, ça vient contrecarrer l'effet de rétribution du dollar qui est beaucoup plus important que l'euro. La question, c'est est-ce qu'on rentre dans un cycle, comme on a connu lorsque le dollar était arrivé à 1,50, de vraie logique de quasiment des dépréciations, je dirais, compétitives du dollar qui vient contrecarrer les effets négatifs derrière des droits de douane. Donc, la vraie question se pose là. Donc, pour moi, le dollar 1,20, à mon avis, 1,18, 1,20, c'est là où on va. Au-delà, ça serait beaucoup plus problématique. Et sur les marchés, évidemment, on sait les États-Unis se refinancent plutôt court terme en ce moment, parce que c'est compliqué d'aller se financer long terme. Et je pense qu'on pourrait, c'est le mois d'août, derrière le plafond de la dette, toutes les négociations qu'on va avoir, c'est là où on peut avoir un emballement, les taux longs qui remontent et le marché qui a du mal à tenir. Donc je reste sur ce scénario au mois d'août, vers le 15 août, qui risque d'être extrêmement complexe. Pour l'instant, il n'y a pas de raison que le marché, honnêtement, baisse parce qu'on n'a plus de nouvelles à attendre d'ici juillet, maintenant. Il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent, donc on aura des chiffres d'emploi, des choses comme ça, mais je ne vois pas le marché faire un collapse, si vous voulez, tomber lourdement dans les prochains jours. Je pense qu'on va attendre, à mon avis, la période estivale.
Et je retiens que vous avez prononcé 3-4% d'inflation aux États-Unis. Alain Dubrulle, vous avez dit 2-3%. Sébastien l'a levé.
Non, je dis 2-3, c'est la tendance de long terme.
D'accord.
L'inflation aux États-Unis, pour l'instant, elle est quand même bien aidée par la baisse des prix du pétrole. Donc, en effet, le CPI, pour l'instant, il était plutôt raisonnable. Maintenant, cette inflation liée aux droits de douane, elle arrive normalement en juin-juillet.
Donc, c'est le scénario du pire, ce que vous décrivez.
Le scénario du pire, c'est inflation à 4%. Donc, ça fait qu'en termes de taux réel, on parlait là, ça commence vraiment à pincer.
Voilà, bon, après, en même temps, les entreprises pourront aussi prendre sur leur marge. Enfin, il y a pas mal d'arbitrage.
Sébastien l'a levé rapidement quand même sur l'Europe. Alors là, pour le coup, l'Union européenne, on a une réunion de la BCE jeudi. On s'attend à une baisse de 25 points de base. On a effectivement une inflation qui a été publiée donc pour le mois de mai, pardon, qui passe sous les 2%. Quel scénario sur l'Union européenne? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que on est sur effectivement une économie ou en tout cas des marchés qui surperforment à l'heure actuelle? Enfin, quel est votre scénario sur l'économie européenne aujourd'hui? Alors, et donc sur les marchés, pardon, mais d'abord sur l'économie, donc sur les marchés.
Juste un mot pour un parallèle entre les US et l'Europe. Quand on parle d'économie américaine, il ne faut pas oublier, par exemple, en 2023, si vous enleviez les 7 magnifiques, il n'y avait pas de croissance de BPA aux États-Unis en 2023.
Oui, bien sûr.
La croissance, elle était totalement tirée par les 7 magnifiques. Donc en réalité, quand on enlève ces boîtes extraordinaires de l'équation, l'économie américaine, elle va... C'est pas non plus une perte de croissance super forte, hein. Loin de là, c'est qu'il y a ce biais, on a tous ce biais lié à Nvidia, Amazon, Google, qui sont incroyables. Et d'ailleurs, on l'a vu au premier trimestre, hein, le
solde 1000, il a rien fait l'année dernière.
Il a rien fait.
Il est en baisse là.
Et là, il est en baisse. Et par contre, les 7 magnifiques ont surperformé extraordinairement en termes de publication au premier trimestre.
Ah,
à nouveau, on s'attendait que le S&P 493, donc sans elle, aller en termes de croissance se rééquilibrer, et en fait c'est pas vrai, et c'est reparti, le décalage est reparti. Et donc sur l'Europe, je parlais un peu des biais qu'il y a eu sur l'industrie financière, sur l'industrie de la défense, donc sur certains îlots de croissance. Je vous ai parlé un peu des small caps tout au début, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, sur la partie macro, il y a la partie politique et la partie macro. On voit que la partie politique de réponse à Trump en Europe, c'est quand même pas simple. Hein.
Ouais.
Et l'élection polonaise ne simplifie pas les choses, hein, parce qu'il y a clairement chacun qui joue sa partition, et la partition n'est pas forcément la même suivant les pays, suivant les zones. Le fait que l'Allemagne aille mal, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ils ne vont pas bien, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, et ça veut dire que l'Allemagne qui va moins bien est un peu plus européen par nature, ce qui n'est pas leur sentiment au premier, hein, de l'époque Merkel, si vous vous rappelez bien.
Bonne nouvelle pour l'Union européenne.
La bonne nouvelle pour l'Union européenne, c'est que l'Allemagne se rende compte qu'elle n'allait pas si bien. Donc ça, c'est le plan Merkel, et qu'il y a un nouveau chancelier qui prend les choses en main et plutôt bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Mais en tout cas, il doit y avoir une réponse un peu institutionnelle à Trump, à Poutine, à la Chine. Et là, on l'attend un peu, on le voit dans la négo par rapport aux droits de douane, c'est pas très fort. Et c'est pour ça que l'élection polonaise simplifie pas la tâche. Parce que parler d'une seule voix, et c'est le seul intérêt de l'Europe, c'est d'avoir une possibilité de parler d'une seule voix. Et là, ça va pas être simple. Donc sur l'Europe politique, c'est compliqué. Sur l'Europe économique, en tout cas en tant qu'investisseur, on se dit qu'il y a l'aspect domestique qui était un peu ringard aujourd'hui, est une bonne nouvelle, et ça plaide un peu pour les small mid, parce que qui ont une vision des choses un peu plus domestique, un peu plus locale, un peu plus niche aussi. Et si je devais développer un peu, ça fait 3-4 ans que les grandes sociétés ont magnifiquement performé boursièrement versus les plus petites. La raison principale, c'est qu'en croissance, elles avaient plus de croissance.
Oui.
Comme Schneider, par exemple, qui est une boîte extraordinaire, et quand vous alliez les voir, vous dites, bon, pourquoi je m'embête à prendre faire des petites boîtes, t'achètes du Schneider, et t'es tranquille. Sauf que quand vous regardez la perte sur 3 ans et que vous analysez la source, vous vous rendez compte que c'est plus du re-rating que deux augmentations de résultats par rapport à il y a 3 ans. Okay. Donc on est un peu arrivé au bout de ça, à mon avis. Et donc le marché, qui est un fanatique et un vampire de la croissance, va vouloir continuer à trouver de la croissance.
Et il va aller chercher chez les small et mid.
Il va aller chercher dans des boîtes un peu plus petites.
Mais c'est même small et mid dont on nous dit depuis 2-3 ans que ça va être le moment small et mid. Vous nous dites, bah là, effectivement, on y arrive.
Moi, je l'aurais déjà dit il y a 2 ans, donc ne me croyez pas. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une capitulation en fin d'année. Qu'en janvier, je pense que c'était pareil pour toi, tu disais que tu faisais de la small cap. Allez, vas-y.
Voilà. C'était US forever, US forever.
Et donc, là, ça change. Là,
la capitulation a eu lieu. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il faut une capitulation pour qu'il y ait un rebond. Et factuellement, quand on regarde les estimations de croissance attendues pour l'année qui vient, sur les small mid, c'est à nouveau supérieur aux large cap, qui sont plus cher qu'il en était il y a 3 ans, et où le potentiel de bonnes surprises est un peu capé par des marges au plus haut. Et il n'y a pas que des GAFA, hein, c'est-à-dire qu'il y a des marges au plus haut et une capacité à surprendre qui aujourd'hui est un peu plus faible qu'elle ne l'était. Alors que sur les small, vu que tu n'en attends rien,
et ben on n'est pas déçu.
Tu redécouvres
les valos sont faibles,
tu redécouvres des boîtes, et voilà.
Et les valos sont faibles, elles sont objectivement, c'est un peu ce qui faisait leur faiblesse fait leur force, c'est qu'elles sont moins exposées aux États-Unis, aux droits de douane. Et puis, c'est vrai que d'un point de vue macro quand même, avant c'était les États-Unis forever. Et puis un autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'annonce DeepSeek.
Oui.
C'est-à-dire que outre les outrances et les variations de Trump sur les droits de douane, il y a quand même un truc qui a changé depuis janvier, c'est que quand les États-Unis ont annoncé le plan Stargate 500 milliards, la première action c'est de dire on est foutu. À la limite, on peut acheter du Schneider pour suivre les équipements, mais ils vont nous écraser, ils ont trop d'argent, on est nul. Bon. Et puis derrière, les Chinois ont montré que finalement, ils étaient capables de faire eux aussi des trucs. D'ailleurs, ils le donnaient à tout le monde, au passage. Mmh. Et quelque part, DeepSeek et ses petites sœurs montrent que le leadership technologique des États-Unis, il n'est pas mort, hein. Il y a encore des super boîtes, elles gagnent beaucoup d'argent, etc. Mais c'est moins US Forever aussi.
D'accord.
Depuis qu'on voit, et la Chine continue de faire des annonces, on voit dans l'automobile, ils sont carrément devant, sur pas mal de choses, et petit à petit, il y a un ensemble de plus en plus de secteurs industriels où ils deviennent challenging, et c'est sérieux, et c'est pas que de la petite industrie de merde où on copiait comme dans les années 2000, ça devient des concurrents véritables, et peut-être même un jour dans les puces, on sait jamais. Donc ça veut dire en fait que du côté des États-Unis, outre les outrances trumpiennes, la raison pour laquelle on aurait mis des multiples colossaux sur les GAFA, peut-être moins de raison d'être. C'est pas que les GAFA vont voir leur résultat divisé par deux. Ils vont peut-être continuer à être aussi bons, mais ils vont peut-être moins croître. Et surtout, le multiple, il n'y a plus que l'IA, quoi. Enfin, en janvier, il y avait les US, l'IA, Nvidia, terminé. Sûr, ouais. Maintenant, on se rend compte que dans le reste du monde, il se passe des choses. Le leadership américain en technologie, en plus des conneries que fait Trump, est challengé. Donc, pour un investisseur, il se dit, il n'y a peut-être pas que les US. Il n'y a peut-être pas que le dollar. Et quand il se tourne vers l'Europe, il voit que l'Europe, qui était un peu en fond de cuve total, on a des taux d'intérêt qui baissent quand même plus vite qu'aux États-Unis, entre autres parce que l'inflation est mieux maîtrisée. On a un plan de relance allemand qui apporte pour la première fois quelque chose, c'est nouveau quand même. On a une industrie, alors spécifiquement dans la défense, où Trump nous demande de faire 5%, là on était à 2, alors peut-être qu'on fera que 3-3,5, mais on a bien compris que quand on va passer de 2-3,5, c'est pas que pour acheter des armes américaines, hein. Il est temps de faire aussi des trucs chez nous, parce qu'on n'est pas sûr qu'on peut compter sur eux. Donc le CR de la défense, il y a peut-être quelques excès sur quelques boîtes, mais globalement, on a une explosion de croissance qui est bien réelle. Rappelons que Rheinmetall, qui vise 30 milliards peut-être et plus de chiffre d'affaires en 2030, il en a fait 7. Enfin, avant le Covid, on était à 5 milliards. Donc, c'est pas que du re-rating. Il y a aussi une vraie croissance. Et puis, le dernier point, peut-être aussi, qu'on oublie, mais si jamais les choses se tassent un peu en Ukraine, ce qu'on espère quand même, s'il y a une forme de paix, il y a aussi la reconstruction. Et il n'y en aura pas que pour les Américains. Donc, si on regarde l'Europe, quelque part, il y a quand même pas mal de petites pierres blanches qui font que, pour un investisseur international, l'Europe peut-être un peu moins inintéressante qu'avant, et pour des valorisations qui sont assez modestes. Donc voilà.
Frédéric Rosier, le moment small et mid, le moment Europe, finalement.
C'est vrai que ça fait 2-3 ans que tout le monde se plante là-dessus. Plusieurs réflexions. Je pense que pour les mid et small cap, pour que ça fonctionne vraiment, il faut qu'il y ait, et ce qu'on n'a pas eu ces dernières années, une stabilité politique et une vision claire de la taxation, qui gouverne. Donc, pour que ça marche,
je répète. En France ou en Europe
Même partout, là, on voit aux Pays-Bas, en Corse.
Voilà. Les politiciens sont encore capables de nous décevoir.
Voilà. Donc, ça, je mets modulo cette partie-là de stabilité, quand même, politique, d'un environnement fiscal clair. Ça, c'est plus important, à mon avis, sur le mid et small cap. Deuxième réflexion. Vous savez qu'en Europe, et surtout en France, on a été concurrencé sur le mid et small cap par le private equity. C'est-à-dire que l'investisseur est allé allègrement sur des valos des fois deux fois plus chers que sur le côté. Hein, au pic, le private equity, ça se négocie en moyenne 12 fois EV sur EBITDA. Alors, ça dit rien, mais c'est à peu près deux fois plus cher que ce que ça valait il y a 5-6 ans. Et on refuse aujourd'hui, on refusait il y a encore peu de temps de payer 5-6 fois EV sur EBITDA des entreprises du mid-market français. Alors que normalement, vous savez, on a une prime de liquidité. C'est un actif liquide, donc on devrait normalement payer plus cher quelque part, avoir une rémunération plus importante sur cet actif-là. Mais bizarrement, le marché ne voulait pas du mid et small cap, qui était dû essentiellement à des flux, c'est-à-dire absence totale de flux.
Les ETF, qui
avaient du mal.
Il faut la liquidité.
Faut le savoir. En plus, la particularité, c'est une vraie réflexion sur le mid et small cap, et j'ai des gens à côté de moi qui connaissent bien aussi ce milieu, c'est que le mid et small cap ne pouvaient pas le faire en ETF. Pourquoi ? Parce que vous allez retrouver 4-5 grosses valeurs mid et small cap. La vraie capacité de faire des mid and small cap, c'est d'avoir un gérant.
C'est du stock picking.
Vous pouvez pas le faire autrement. Je dirais quasiment impossible de le faire. Sinon,
si ce n'est que entre 2018 et 2023, le gérant, même s'il faisait des choix qu'il pensait être pertinents, il se tapait à un flux de décollecte ou de boîtes totalement oublié. Parce qu'il se fait qu'il y a un fonds qui a envie de sortir. Parce que là, on parlait avant l'émission de certains fonds qui avaient songé à tout solder en décembre. Mais là, c'est à n'importe quel prix. Il suffit qu'il y a un gros qui sort et la valorisation peut être délirante. L'autre point aussi, les entreprises cotées, mid-cap que nous rencontrons, qui se plaignent depuis plusieurs années en disant « je n'arrive pas à acheter », on parle par exemple dans les SS2I, « je n'arrive pas à acheter des boîtes parce que c'est 12 fois, 14 fois, enfin Aubais par exemple, une boîte qui finalement, c'était Micropole, qui traitait à 5-6 fois, il y a une OPA à 8-9 fois, bon, le prix pas très cher, mais c'était pas une super boîte, et puis eux, ils ont discuté avec eux en disant « bon, on pourrait essayer de faire 10 fois », et ils nous expliquaient que dans le déjeuner, ils ont compris que ça faisait rigoler parce qu'il y avait d'autres gens qui étaient prêts à payer 12-13 fois et qui ont proposé finalement, c'est un titre qui était à 1,20, l'OPA était à 1,80 et il s'est sorti à 3,10. Et bien ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, Aubais vient de faire une acquisition, on va voir ce que ça donne, mais globalement, des boîtes qui ne voulaient pas surpayer sont enfin capables de le faire. Ce qui veut dire que les gens qui ont du private equity à vendre en ce moment, c'est peut-être plus les multiples d'avant, et attention.
Mais donc ce que vous dites, Frédéric Rosier, c'est que les small et mid, oui, mais attention à la concurrence private equity.
Simplement, là aussi, c'est un retour à la normale. Le mid market devrait valoir beaucoup plus cher.
D'accord.
Ou éventuellement, private equity devrait plutôt se calmer. C'est ça, je veux dire, on devrait retrouver normalement un truc beaucoup plus homogène. Ce qu'on n'a pas connu ces dernières années, où c'est vrai qu'il
y a... Ce qui explique aussi le intérêts potentiellement sur les small et mid, c'est ça ?
Exactement, oui, parce que c'était une concurrence directe.
Et puis sur la qualité de la cote aussi, c'est-à-dire qu'en fait, une société qui veut se coter, ce qui m'a surpris l'année dernière, c'est que les brokers, d'habitude, ils ont toujours envie d'introduire des boîtes. Et là, l'année dernière, pour la première fois, c'est de vous dire à quel point on est tombé bas, les brokers nous disaient non, les bonnes boîtes ne veulent pas.
Oui, bien sûr.
À quoi bon s'introduire pour traiter à 6 fois cette valo EBITDA ?
Ça n'a aucun sens pour les managers. Une sortie de cote récemment, c'est uniquement parce que la valo proposée par le privé aujourd'hui est beaucoup plus importante.
Beaucoup de familiaux ont profité de la baisse pour sortir de la bourse à vil prix.
Sébastien Relevé.
Les vraies bonnes affaires, elles sont en bourse aujourd'hui. Elles ne sont pas dans le private equity. Et puis d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est regarder les sorties récentes du private equity. Mais il n'y en a pas eu. Ou alors des fonds entre eux. Des fonds entre eux, mais sinon des exits industriels ou sur les marchés, sur des acquisitions faites dans les 3-4 dernières années, il n'y en a pas, parce que les valos sont pas tenables. Moi, je dis du mal de personne, mais quand Doctolib est valorisé 5 ou 6 milliards, quand Cegedim est valorisé... je sais pas combien, 300 millions.
Pas grand chose.
Et donc ça, c'est des valorisations qu'on retrouverait pas, par exemple, si on faisait une IPO. C'est ça, il y aurait une sanction du marché qui dirait la valorisation n'est pas tenable, c'est ça ? C'est
non,
ce que vous dites ?
Non, clairement pas, non. Ouais. Non, mais clairement.
Et déjà entre l'impression de ce qu'ils valent et ce qu'ils pourraient même mettre une prime parce que Doctolib machin, ils se rendent bien compte que ça ne les excite pas plus que ça.
Non, mais il y a une décote de marché. D'ailleurs, nous, on le constate. Après, s'il y a des inefficiences de marché liées au fait qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités, qu'il y a moins d'acteurs qu'avant, pour ça, il faut dire merci à la réglementation, hein, MiFID, Solvency, tous ces sujets-là qui ont bien sapé les marchés financiers depuis 15 ans. Tous ces trucs-là, on s'est bien tiré des balles dans le pied.
Il faut que les flux reviennent, du coup, si je comprends bien aujourd'hui sur les small limits. Qu'est-ce qui pourrait faire revenir
comme les perfs commencent à être bien meilleurs, tout d'un coup, les gens qui achetaient des actions américaines en décembre, tiens, vous faites.
D'accord.
Ouais. Et là, et
ça va être un flux de grande grandes capitalisations vers des small et mid, mais toujours sur les marchés.
Il faut bien se rappeler, regardez, le CAC small, c'est 20 milliards.
Les fonds small mid de qualité, il y en a plein. Le TRI sur les dernières années, malgré qu'il y ait eu des années compliquées, il n'est pas loin de 10%.
Alors si on remonte avant 2018.
Et voilà, donc sur 10 ans, tu vois, moi je crois qu'on en a, on a 10% de TRI. Net. Net de tout. Hein. Sans levier. Net sans levier. C'est pas facile à faire, hein, parce que le levier est sans expansion de multiples, forcément. Mmh. Regardez la perte des dernières années du PE, il était lié notamment.
Le fait de passer de 8 à 12.
Au fait que les multiples, il y a eu un re-rating, donc ce qu'ils achetaient à 8 il y a 15 ans, aujourd'hui se vend à 12, ça c'est le marché.
Puis la dette était pas chère.
Et les taux d'intérêt ont baissé sur la période. Maintenant, ils remontent. Donc, on ne compare pas des choses qui sont identiques. Mais aujourd'hui, clairement, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, la value, les choses pas chères, elles sont sur les marchés financiers et notamment sur les small et mid cap.
Eh bien, on finira là-dessus. On n'aura malheureusement pas le temps de traiter tous les sujets qu'on voulait traiter ensemble. Merci beaucoup, Sébastien Lalevée, directeur général de Montpensier Arbevel. Merci, Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Et merci, Alain Dubrul, le directeur de la gestion chez Claresco. Merci à tous les trois. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.